entre les musulmans et le Kachin oriental. J'ai repris totalement cette idée.
Moi, j'ai été convaincue au Kachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, ben, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Ce lundi 16 avril, nous parlons de la lutte contre l'insécurité au Nord et sur Kivu. Lors de son récent séjour au Nord et sur Kivu, le chef de l'État a annoncé que désormais toutes les opérations militaires dans ces deux provinces, où existent encore différents groupes armés, seront conduites seulement par la 8e région militaire pour le Nord Kivu et la 10e région militaire pour le Sud Kivu. Pour faire face à ces différents groupes armés, les FARDC soutenus par les forces de la MONUSCO avaient entrepris des nouvelles opérations militaires faites par le Sud Kivu et coup de foudre au Nord Kivu. D'autres opérations avaient été entreprises dans le passé, notamment opération Umojawetu, Kinyadun et Amanileo. Qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner les mesures prises par le chef de l'État dans la lutte contre l'insécurité dans ces deux provinces? Nous en parlons dans ce studio avec M. Baudouin Amouli, coordonnateur de la Conférence internationale pour la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Dikim Poutou, Joël Bakoulikira sont à la réalisation de cette émission mise en onde par Duma Zangou et Nicole Ngata est à la supervision fidèle auditeurs. Bienvenue à tous.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Et pour proposer des solutions, vous avez la ligne téléphonique 081-890-6315. 081-890-6315, c'est pour les interventions en direct, mais vous pouvez également le faire par l'adresse pa@radiocapi.net. Nous avons aussi la possibilité pour ceux qui sont sur Internet en ce moment et qui sont connectés aux réseaux sociaux comme Facebook par exemple, ils peuvent réagir en nous déposant un commentaire sur la page Facebook des paroles aux auditeurs, la page qui porte les logos officiels de Radio Okapi. Monsieur Bonin Amouli, bonjour. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons de la paix, nous parlons de la sécurité, bien sûr, dans la lutte contre, la lutte contre l'insécurité dans la province du Nord et sur Kivu. Vous qui dirigez la conférence internationale sur la paix et la sécurité dans le Grand Lac, nous savons qu'aujourd'hui, il y a des groupes armés étrangers et congolais qui sévissent encore dans ces deux provinces, qui sont à la base, bien sûr, de la sécurité qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui. Parce qu'à votre niveau, quels sont les groupes armés qui sont encore actifs dans ces deux provinces, que ce soit les groupes armés étrangers ou même les groupes armés locaux?
Bon, globalement, il y a deux types de groupes, comme vous avez dit. Il y a les forces négatives, qu'on appelle les groupes armés d'origine étrangère. Ces groupes armés d'origine étrangère sont essentiellement des groupes armés d'origine rwandaise, d'origine ougandaise, et d'une certaine manière, peut-être aussi quelques éléments infiltrés récemment, peut-être du Burundi. Nous avons une deuxième catégorie, c'est les groupes armés nationaux, en tout cas des groupes résiduels, parce que la plupart de ces groupes ont été intégrés dans l'armée nationale et d'autres sont démobilisés, mais il en reste quand même quelques-uns au nord Kivu et au sud Kivu qui ont résisté à l'intégration et qui continuent malheureusement à être actifs, donc Pariko, Nord Kivu,
Yakutumba,
les Maïmaï Yakutumba au sud Kivu sont parmi les plus grands, et deux ou trois petits groupes encore au sud Kivu et deux ou trois encore au Nord Kivu. Donc en gros, ça c'est un peu les groupes armés qui sont encore actifs à l'Est. Alors, on peut on peut parler d'ADS Nalu, n'est-ce pas?
Oui.
Comme groupe une armée d'origine ougandaise, FDLR, groupe d'origine burundaise.
Rwandaise.
D'origine rwandaise, pardon. Et donc, voilà, peut-être quelques éléments de SNL
burundais. Et on a vu lors de son dernier séjour, bien sûr, au nord et sud Kivu, le chef de l'État a pris la décision qui donne, bien sûr, aux deux régions militaires de ces deux provinces l'autorité sur les opérations militaires, parce qu'on a, on peut rappeler qu'il y a eu beaucoup d'opérations militaires, bien sûr, menées par les FARDC, soutenues par le force de la MONUSCO. Jusqu'à aujourd'hui, quel bilan dressez-vous de ces opérations militaires sur le terrain dans la sécurisation de ces deux provinces?
Bon, d'abord, permettez-moi de commenter un tout petit peu sur la mesure de chef de l'État, de pouvoir confier aux régions militaires le commandement des opérations. Je crois qu'il faut savoir que il y avait une sorte de bicéphalisme qui n'arrangeait pas beaucoup la sécurité à l'Est. Et je pense que plusieurs analystes avaient déjà relevé le fait qu'effectivement il fallait absolument, pour mieux travailler, un commandement unique, notamment de la région militaire. Parce qu'il y avait un commandement d'Amanileo d'un côté, Pasqua qui ne coordonnait pas facilement avec la région militaire. Et donc, je crois que c'est une mesure extrêmement judicieuse, celle qui a été prise par le chef de l'État, que l'autorité militaire dans une province puisse obéir à un seul commandement et les commandements de l'institution, je dirais, instituée, qui est donc la région militaire. Donc ça, je crois que c'est une excellente chose. Et je crois que ça a été très bien reçu par la population qui, d'une certaine manière aussi, voyait ces bicéphalismes de mauvais œil. Alors, quels sont les résultats qui ont déjà été réalisés là-bas? Je crois que il faut quand même dire que les efforts ont été fournis. Les efforts ont quand même été fournis. Je peux dire que nous sommes dans une phase, je dirais, finale, des opérations contre les forces négatives. Vous vous rappellerez qu'il y avait des périodes où véritablement Masisi, Rutshuru, Lubero, donc Kalehe, Kabare, Walungu, Uvira, Fizi, tout ce qu'on a, Shabunda, Mwenga, tout ce qu'on a été véritablement en insécurité totale à cause des forces négatives. Forces négatives qui aussi menaçaient dangereusement la sécurité du Rwanda et même la sécurité de Burundi et de l'Ouganda. Il faut savoir que les différentes opérations militaires qui ont été décidées par le chef de l'État et avec l'appui de la communauté internationale ont permis quand même de dégager de vastes couloirs au niveau entre les frontières des États, au point que on peut dire véritablement que ces groupes-là ne menacent plus réellement la sécurité des États voisins. Ça, c'est grâce aux efforts qui ont été menés. Maintenant, beaucoup de ces groupes se sont dispersés à l'intérieur de notre pays, détruisant nos villages, violant les femmes, etc. Nous avons tous vécu cela. Deux opérations ont été décidées, y compris avec la collaboration des pays limitrophes, dont le Rwanda, et on a pu dégager ces groupes, notamment des carrés miniers, où ils étaient en train de s'alimenter et de maintenir l'insécurité. Donc, maintenant, nous sommes dans la phase où, effectivement, il faut les dégager de leurs derniers repères. C'était les opérations en cours où véritablement il fallait les dégager. Ils avaient véritablement infesté des territoires comme Shabunda, et certains même étaient allés même jusque dans le Maniema. Ils avaient infesté terriblement Mwenga, Fizi, Walikale.
Maintenant, je pense qu'il y a toute une stratégie renforcée par les Nations, par la MONUSCO, qui est en cours. Je crois que, en responsabilisant même la région militaire, je crois que les opérations vont être beaucoup plus foudroyantes. Donc, je pense qu'on avance dans le bon sens vers l'éradication des groupes armés. Il faut savoir aussi, pour en conclusion, que toute une stratégie a été montée par non seulement notre pays avec l'appui des Nations Unies, mais également la région des Grands Lacs. Les ministres de la Défense ont été rencontrés à Kigali l'année dernière et ils ont adopté toute une stratégie permettant de pouvoir éradiquer réellement les forces négatives dans la région.
Voilà, nous avons Séraphin qui est à Ouvira au Sud Kivu, lui Serge est à Kikuit dans le Bandundu, Vavon est à Kisangani. En province orientale, nous allons vous donner la parole, messieurs, pour que vous puissiez proposer ce qui peut être fait pour accompagner les mesures prises par le chef de l'État dans la lutte contre l'insécurité dans les deux provinces. Nous avons parlé du Nord Kivu et Sud Kivu.
Parole aux auditeurs.
Séraphin, vous êtes à Ouvira au Sud Kivu. Bonjour.
Oui, bonjour, à vos auditeurs.
Vous êtes à Ouvira et nous parlons effectivement du Nord Kivu, du Sud Kivu, la lutte contre l'insécurité. On a responsabilisé les régions militaires pour faire cela. Au-delà de ces mesures prises par le chef de l'État, vous qui habitez dans le milieu, qu'est-ce qui peut être encore développé, qu'est-ce qui peut être encore fait pour accompagner ces mesures ou ces rapports?
Oui, merci de la parole que vous m'accordez. D'abord, je suis rendu de la décision du chef de l'État. Parce qu'il vient de se ressaisir. Pourquoi je dis vient de se ressaisir? Nous menons lors de lancement de cette opération Kinyate aujourd'hui à Malinéo. Toute la population était non seulement mécontente, mais aussi protestée contre cette opération. Répondant maintenant à votre question, vous venez de dire, je voulais peut-être d'abord répondre à l'invité qui est sur votre studio-là, parce que là, il y a un certain nombre de problèmes. Il a évoqué même certains groupes armés qui sont dans des territoires de Sisi ou Vira, etc. Mais je vous dis que ces groupes armés ont aussi leurs revendications. Ils ont fait leurs revendications, mais jusque-là, leurs revendications ne sont pas plus d'attente. Mais certaines revendications d'autres groupes armés que je ne voudrais pas ici citer sont toujours plus d'attente. Mais pour y être tout, mais les autres ne sont pas plus d'attente par le gouvernement. Donc, il y a une mesure de discrimination au sein de l'armée. C'est pour ça que le militaire ne peut plus se rallier parce que leurs revendications ne sont plus d'accord. Ce ne sont pas plus d'accord, comme je voulais dire. Alors, en répondant maintenant à votre question que vous venez de me poser, moi je pense que d'autres mesures qui peuvent être plus d'accord pour accompagner la paix au niveau de tout ce vous, on doit aussi passer à l'affectation des militaires. Parce qu'il y a certains militaires qui se croient de l'Est et ils veulent toujours rester et travailler à l'Est. Or, dans l'armée, quand on est déjà congolais, on doit accepter toute affectation. Donc, moi je me rends à ce il y a aussi l'affectation des militaires. Ceux qui sont de l'Est puissent aller travailler à l'Ouest, ceux qui sont à l'Ouest puissent venir même travailler ici, ou soit que ceux du Centre puissent venir travailler ici. Là, vraiment, il y aura une mesure d'accompagnement de sécurité. Ça, c'est comme proposition que je voulais dire.
Merci, Séraphin. Vous êtes d'abord réjoui de la décision prise par le chef de l'État. Mais vous avez aussi évoqué le fait qu'il n'y a pas une prise en compte globale des revendications des groupes armés. C'est pour un peu ajouter à ce que notre invité venait de dire. Mais vous pensez qu'il faudrait un déploiement des militaires? Il ne faudrait pas que les militaires qui sont originaires d'une province ou soit d'une localité puissent continuer à travailler, à vivre dans cette localité. Vous souhaitez qu'on puisse redéployer les militaires, c'est du centre, vont à l'ouest, de l'ouest à l'est, de l'est au nord. Comme ça peut permettre à ce que la paix puisse revenir dans ces provinces. Merci beaucoup, Séraphin. Vous êtes à Ouvira, Louis-Serge, à Sikwis, dans le Bandundu. Bonjour. Oui, toi, vous êtes en ligne, bonjour, oui. On vous écoute. Voilà. Oui, Louis-Serge, on a des soucis avec vous. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pendant ces temps, vous continuez à essayer de nous parler. Si vous nous suivez, parce qu'on a des petites perturbations, est-ce que vous nous suivez maintenant, vous pouvez continuer? On l'a perdu, peut-être que voilà, la réalisation pourra voir comment lui permettre d'intervenir dès qu'il puisse dans le Bandundu. Nous avons Bavon qui est à Kisangani, en province orientale. Bonjour Bavon.
Oui, bonjour M. Perrault.
On vous écoute Bavon. Qu'est-ce qui peut être fait pour vous pour accompagner les décisions prises par le chef de l'État dans la lutte contre l'insécurité au nord et au sud qui vous?
Oui, je souhaite d'abord parler de ce après ces opérations à Manileo, il y a un type. Pour moi, je trouve ces opérations mieux sans effet. Car une opération militaire, on le sait très bien, c'est mettre hors d'état de nuire les affaires afin de pacifier la zone. Et quand on regarde ces opérations, on se rend compte que jusque-là, rien ne change. Bon, j'ai quelques questions à adresser à notre invité. Je demande si réellement les phares de feu servent la géographie de la RDC. Si on dit on a chassé les assaillants, les ailes de l'air et les ailes de l'eau, c'est par rapport à quel territoire, quelle province ou quel pays. On sait que les phares de feu sont là pour assurer la sécurité et l'intégrité des territoires de la RDC. Alors, si on repousse les assaillants d'un territoire à un autre, là, on va dire réellement l'opération a réussi. En bref, il y a complicité de nos sociétés militaires, surtout l'opinité qui diffuse le phare de feu. Ou les anciens militaires, celles-ci, ne veulent pas aller travailler à l'ouest, par exemple. Comme proposition, je dis ceci. Bonne condition de vie des militaires, discipline dans le phare de feu, et aussi tous les militaires de l'Est, pour faire ce travail à l'Ouest et ceux de l'Ouest revient à l'Est. Merci.
Merci beaucoup. Bavon, vous avez pensé d'abord, est-ce que les militaires qui sont sous terrain ont-ils vraiment la maîtrise géographique des provinces? Si on chasse les groupes armés ou les FDLR dans une localité qui se rend encore dans une autre, on ne peut pas dire là qu'il y a une solution sur terrain. Mais vous avez aussi proposé qu'on lutte contre l'impunité et surtout, vous avez rejoint, hein, c'est la France qu'ils font un redéploiement des militaires, vous avez fait allusion aux militaires de l'ex-mouvement CNDP, vous avez pensé qu'il serait mieux qu'ils soient aussi redéployés ailleurs dans d'autres provinces. Merci beaucoup, Baron, de cette proposition. Nous rentrons à Kikwit cette fois, c'est avec Arsène, parce que Louis-Serge, la ligne téléphonique nous a posé des petits soucis. Arsène, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi les propositions de Séraphin qui était à Ouvira et Bavon de Kisangani par rapport à ce qu'il faut faire pour accompagner les décisions du chef de l'État. On vous écoute. Qu'est-ce qui peut être fait pour que ces mesures puissent lutter efficacement contre l'insécurité au nord et sur Kivu?
Ok, monsieur. D'abord, l'armée est un corps organisé. Et l'armée, c'est pas quelque chose qu'il faut taponner. C'est comme une pyramide. Il y a un chef au-dessus et ce chef est assis sur des piliers solides. Alors, pour que le chef des armes puisse réussir, il doit d'abord faire la première chose qui est la discipline militaire. À l'époque, nous avions notre général, le général Mobutu à l'époque, il disait ceci. Armée, ils allaient discipliner, armée, ils allaient mobiliser. Bon, je ne suis pas pour ces histoires-là. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement avec notre armée? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à l'insécurité totale. Même pas envoyer un militaire, peut-être on peut se réserver un peu. Mais pour que le chef de l'État puisse réussir, c'est question de réorganiser l'armée, de discipliner l'armée et de l'équiper. Voilà. De deux, le chef de l'État a pour mission sécuriser. D'abord, sécuriser l'espace national. Ça ne veut pas dire qu'il y a des militaires qui doivent être de l'Est, il y a des militaires de l'Ouest, il y a des militaires du Nord et du Sud. Non. Et nous voyons quand nous étions petits, les militaires ne passaient pas une année quelque part. Une année, au plus, quelques mois, il est déplacé, il est envoyé en mutation pour ne pas avoir la familiarité avec la population environnante. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous avons l'armée qui s'habitue avec la population et l'armée qui devient en quelque sorte complice dans des histoires. Nous, bon, je ne vais pas tellement attaquer nos militaires, mais nos militaires sont en train de souffrir moralement, matériellement et financièrement. Mm-hmm. Il faut les remettre en ordre. Financer l'armée correctement et la discipliner, et le chef de l'État n'aura pas de problème. Il peut être sans il aura tout ce monde-là de généraux qui sont tout autour de lui. Et on va neutraliser cette histoire en ne rien défendre. Ce n'est pas un problème de neutraliser tout ce monde-là.
Merci, Arsène. Voilà. Merci, Arsène. Vous avez dit qu'il faut remettre dans la discipline dans l'armée, il faut la réorganisation de l'armée, il faut équiper l'armée, il faut améliorer les conditions de vie des militaires. Vous avez aussi insisté sur le redéploiement des militaires, hein, ceux qui sont à l'est vont au centre, ceux qui descendent. Vous avez raison, parce que les trois premiers auditeurs qui ont pensé qu'il faudrait qu'on n'ait pas des militaires qui restent figés sur un même endroit pour beaucoup de temps. Nous allons écouter Aristote qui est à Boutembo et on va donner la parole à notre invité pour commenter ses premiers points de vue des auditeurs. Aristote, vous êtes à Boutembo, Nord Kivu, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
Voilà, on vous écoute Aristote. Qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner les décisions prises par le chef de l'État?
D'abord, je vais commencer à dire que le premier, je veux soutenir mon collègue là, qui se rappelle de Vira qui a commencé à parler. Je pense que la seule solution, c'est quoi? C'est les déploiements des militaires qui sont de l'Ouest et les déployer à l'Ouest du pays. Parce qu'on n'est pas né militaire du Nord-Kivu, on n'est pas né militaire du Sud-Kivu, on est militaire de toute la République démocratique du Congo. Parce qu'il est impossible à dire à quelqu'un d'aller chasser, d'aller désarmer son collègue, son frère, son grand frère qui est dans la forêt. Par exemple, un colonel qui est dans l'armée nationale, mais qui a son petit frère ou son grand frère qui est rebelle dans la forêt. Comment se fait-il que le monsieur l'a fait aller désarmer son frère qui est dans la forêt? C'est impossible. Mmh. Alors, je pense que la seule solution, c'est le déploiement des militaires. Et que d'abord, commencer par les militaires qui sont venus du CNDP, les anciens Maïma, les déployés. Dans le travail, même au bas du nous, même dans le bas pour nous, ils ne sont pas militaires du nom qui vous et du sud qui vous. Seulement ça. Mais j'ai cité la décision prise par le président de la République.
Merci.
Je te dis, mais ce qu'il doit penser,
c'est le déploiement voilà.
Des militaires, et des anciens Maïma, les déployés dans la province. Du Nord Congo, même de l'Équateur, même du Gand, même la Chine, ils ne sont pas là. Mais pourquoi ils doivent toujours travailler? Parce qu'ils sont là, mais ils ont des frères, leurs frères qui sont dans la forêt. Et ces mêmes frères-là, ils sont en train de se communiquer. Parce que si je me souviens bien, j'avais suivi, j'étais à Alicalca, il y avait une opération là, montée par l'ancien général Bosco Taganda qui conduisait cette opération. Mais, il faudra voir comment cette opération-là était tombée à faillite. Parce qu'on avait envoyé les militaires, alors que les rebelles qui étaient poursuivis dans la forêt, ils étaient informés de toute la situation, qu'il y a une opération qui est montée contre vous. Et pourquoi moi, je veux dire que
vous proposez le déploiement, voilà, merci.
Qu'ils puissent aller dans la province, d'autres provinces, surtout à l'Est, ils ne sont pas nés.
Merci Aristote, vous êtes à Boutembo. Je pense qu'il serait mieux qu'on écoute directement Tatali qui est à Lubumbashi. On va revenir à notre invité. Tatali, vous êtes en ligne, bonjour.
Alors, bonjour.
On vous écoute avant de donner la parole à Baudouin Amouli. Vous avez suivi les uns et les autres. Qu'est-ce que vous proposez aussi pour accompagner les décisions prises par le chef de l'État?
Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir qu'il y a un adage bantou qui dit il faut regarder là où vous êtes connu et non pas là où vous allez tomber. Toutes les difficultés que l'armée congolaise est en train de subir vient de très longtemps. Ce pays a été balkanisé dans quatre langues nationales. Et ces quatre langues nationales ont déjà formé des pays. Il n'y a pas moyen de former une armée nationale. Parce que celui qui parle de Swahili, devant quelqu'un qui parle la Lingala, ça c'est un étranger. Celui qui parle de Chiluba, devant quelqu'un qui parle le Kikongo, c'est un étranger. Ainsi, il n'y a pas moyen de former une armée nationale. À partir de la colonisation belge, le pays a été balkanisé. Il ne faut jamais avoir honte et peur de dire la vérité.
Voilà, Tatali, merci beaucoup. Vous avez dit qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir une armée nationale parce qu'au niveau même de la société congolaise, le fait qu'on se retrouve avec les quatre flancs nationales, les gens même au sein de l'armée ont tendance à se comporter en tant que ceci. Si on est en train de, si on parle de Chiluba, on voit celui qui parle de Kikongo, le Sayo et Lingala comme un étranger. Vous dites que c'est ça. Une situation que nous avons évitée depuis longtemps. Alors il sera difficile aujourd'hui de pouvoir avoir cette homogénéité au sein de l'armée. Félicien, vous gardez la ligne, on va revenir à vous, le temps que notre invité puisse commenter le point de vue de ce premier groupe d'auditeurs après quelques secondes.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Monsieur Baudin Amouli, vous avez suivi les auditeurs hein, de ces premiers groupes d'auditeurs, je crois bien 5 personnes, on tire un point commun, c'est au niveau de l'intégration et le redéploiement des militaires à travers le pays, pas que puissent se rendre compte que les militaires issus de l'ancien mouvement rebelle CNDP acceptent de pouvoir travailler là où ils sont. Les gens pensent qu'il faudrait aujourd'hui permettre à l'armée de faire des mouvements, de bouger comme ils l'ont vu dans l'ancien temps, que cela peut faciliter aussi la lutte contre l'insécurité dans les deux provinces. Beaucoup de militaires sont revenus là-dessus, au-delà aussi des propositions sur l'encadrement de l'armée, sur la réorganisation, l'équipement, et puis aussi lutter pour avoir cette armée-là homogène. Cela peut contribuer facilement à la lutte contre l'insécurité.
Merci pour la parole. C'est vrai que le souhait des leaders politiques du pays, depuis longtemps, a toujours été d'avoir une armée républicaine, une armée nationale intégrée qui protège l'ensemble de notre territoire et notre peuple. Je crois que c'est l'idéal auquel tous les gouvernements ont essayé de travailler et c'est l'idéal auquel le chef de l'État essaie de travailler à l'heure actuelle. Je crois que nous sommes avancés et nous avançons progressivement. Il faut d'abord savoir que nous avons un pays extrêmement grand, 2 345 000 km², c'est-à-dire un pays qui a la taille de toute l'Europe occidentale, de Madrid à Moscou, et il faut se mouvoir sur ce territoire, mouvoir les troupes, hein. Ça demande une logistique extraordinaire que notre armée n'a plus. Quelqu'un disait tout à l'heure que les problèmes de notre armée
datent de longtemps.
Effectivement, dans les années 80, avant la 90, avant la chute de Mobutu, on a vu déjà notre armée commencer véritablement à tomber, à s'effriter du matériel militaire vendu ou détourné, etc. Donc, les problèmes ont commencé depuis ce temps-là et les problèmes ne sont pas encore résolus. Nous sommes entrés dans une très forte crise, dans une guerre, et nous sommes en train d'en sortir maintenant progressivement et fort heureusement de manière positive. Nous n'avons pas tous les équipements nécessaires, mais nous renouons progressivement avec la coopération internationale. On n'a pas encore tous les moyens, l'aviation, tout ce qu'il faut pour pouvoir mouvoir l'ensemble les troupes sur l'ensemble des territoires, y compris les moyens financiers. Il faut savoir que le budget de l'État a été très faible et a augmenté progressivement. Et j'espère que donc nous allons avoir plus de moyens maintenant. L'armée doit être absolument républicaine. Je ne partage pas l'avis de M. Tatali, qui est à Lubumbashi, qui dit que on ne peut pas avoir une armée nationale à partir des...
Les problèmes que sur les tissus sociaux, on se retrouve en quatre langues, les gens...
Nous plusieurs communautés.
Non, des blocs.
Absolument pas, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas le seul pays du monde qui a plusieurs communautés. C'est tous les pays du monde qui ont plusieurs communautés. Il n'y a pas un seul pays au monde qui est occupé par une seule tribu. Ce n'est pas, ça n'existe pas. Et même quand c'est occupé par une tribu, il y a plusieurs races dans cette tribu.
Mm-hmm.
Hein? Donc ce n'est pas tout à fait ça. L'Amérique aujourd'hui, l'Amérique c'est le micro, c'est vraiment, se fabrique à travers les gens venant de tous les pays du monde. Et ils ont une armée qui est sur tous les continents. Donc l'enjeu, je pense, c'est comment on organise, comment on gère efficacement notre armée. C'est ça l'enjeu principal. Tout le monde est d'accord, toute l'équipe politique de notre pays est d'accord que notre armée doit être républicaine et que cette armée doit fonctionner sur l'ensemble du territoire. Le principe est là. C'est vrai que c'est déplorable de voir certains militaires comme ceux du CNDP, l'ancien CNDP, l'ancienne frange militaire du CNDP, résister le déploiement. Mais il faut savoir que certains de ces militaires sont déjà sur le territoire. Plusieurs officiers de l'ancien CNDP sont à gauche et à droite à travers le pays. Ils sont dans différents commandements, que ce soit au Kassai, que ce soit dans le Bas-Congo, que ce soit à l'Équateur. Ils sont là. Mais il y a un petit groupe au Nord Kivu, effectivement, qui résiste à ça, Nord Kivu, Sud Kivu, qui résiste à ça et qui, effectivement, vient de démontrer, depuis la récente crise de Bosco-Ntaganda, vient de démontrer que ils peuvent, malheureusement, ils peuvent privilégier les intérêts de l'affiliation personnelle à un commandant plutôt que de privilégier les intérêts supérieurs de la nation. Fort heureusement, ils ont compris parce que beaucoup d'entre eux sont rentrés, beaucoup d'entre eux, ceux qui avaient tenté de quitter leur position, sont quand même rentrés. Donc, on espère que cette crise que nous avons vécue permettra effectivement à certains qui résistent à cet effort d'intégration nationale de pouvoir retourner. Donc nous reconnaissons que ce problème a existé, mais que ce problème est lié à l'ensemble de la crise que nous avions qui est en train de se résoudre. Alors, une question qui a été posée par Séraphin Duvira, c'est de dire que les groupes armés qui restent ont des revendications.
Il faudrait considérer les revendications globales, oui.
Alors, il faut se rappeler qu'on a donné le temps aux groupes armés de pouvoir déposer leurs revendications, de se rencontrer, et de pouvoir intégrer l'armée, etc. Il y a eu tout un processus, le processus de Goma. Qu'on se souvienne, il y a eu des représentants des groupes armés internes qui se sont rencontrés à Nairobi, qui se sont rencontrés à Goma. Il y a eu tout un comité de suivi de ces accords de Goma qui avaient été mis en place. Et ces accords de Goma étaient, n'est-ce pas, négociés pour permettre aux groupes armés internes de pouvoir faire le choix d'intégration dans l'armée ou bien
démobiliser. Voilà.
Et des camps ont été, des camps de démobilisation ont été installés à gauche et à droite pour pouvoir permettre à ce que cette démobilisation et l'intégration puissent pouvoir se faire.
Mm-hmm.
Certains avaient refusé, et ça c'est un peu dommage. Hein? Et il y a eu même beaucoup de négociations avec ces groupes. On a envoyé le chef de l'État, on a quand même envoyé des personnalités pour essayer de négocier avec ces groupes, pour qu'ils puissent suivre les instructions qui ont été données.
Mm-hmm.
Certains ont refusé catégoriquement. Alors, ce n'est pas convenable. Mais donc, le chef de l'État, qui quand même a décidé de manier à la fois la carotte et le bâton, a quand même donné quelques chances encore à ces gens-là de pouvoir de pouvoir quand même réintégrer.
Mais si nous considérons le fait qu'il y a des groupes armés qui se considèrent d'autodéfense face aux groupes armés étrangers, vous voyez que ça risque d'être difficile. Quand il y a encore dans les villages qui sont attaqués par les FDLR ou les AF à Defnalou par exemple, et c'est plus facile aussi pour les jeunes et les ressortissants de ces villages de pouvoir se constituer en groupe d'autodéfense et qui demain deviennent des groupes sur terrain avec autant de structures. Ça, c'est aussi un problème qui se pose aussi longtemps qu'on a ces groupes armés, les forces négatives, comme vous l'avez dit, d'origine étrangère. C'est aussi plus facile que les groupes d'autodéfense puissent se former dans des villages pour se défendre. Et là, le problème risque d'être continuel.
Oui, mais c'est l'armée nationale qui a la responsabilité de défendre la nation. Les groupes d'autodéfense n'ont pas d'espace légal pour cela. Donc, je crois qu'il faut quand même que les gens fassent attention. On est dans la construction de l'État. Quel groupe ne peut pas prendre les armes et dire « nous sommes en train de défendre notre village ». C'est la responsabilité de l'armée nationale et des autres forces de sécurité, que ce soit la police ou d'autres forces de sécurité. Ceci dit, l'opportunité, je pense, aujourd'hui, est lancée à tous ces groupes-là. Le fait que certains avaient même contesté ce bicéphalisme qui était au niveau des opérations à l'Est, certains avaient contesté en disant « Oui, mais c'est pas bon que ce CNDP, etc., commande, machin. » Je crois qu'aujourd'hui, étant donné que tous les commandements est aujourd'hui au niveau des régions militaires, ils ont l'opportunité ici de se soumettre au commandement de la région militaire et de réintégrer plus facilement l'armée aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a une autre opportunité qui est offerte à tout le monde pour pouvoir aider à construire cette armée nationale que nous voulons. Donc, les revendications des uns et des autres, par exemple, effectivement, on connaît les revendications, par exemple, de Kobla Matata dans l'Ituri, qui a ramené l'ensemble de ses troupes. Bon, je crois que maintenant, il faut qu'il attende la réponse de Kinshasa. Il faut qu'il attende un processus d'intégration de ses troupes. Il ne faut plus qu'il les envoie se promener, comme c'est le cas maintenant. Les informations que nous avons montrent que, bon, certains auraient quitté leur lieu de rassemblement. Donc, il faut absolument que ces gens-là retournent à leur lieu de rassemblement, qu'ils restent en dialogue avec l'autorité militaire dans l'Ituri, de manière à ce qu'on puisse régler leurs problèmes. De la même manière que, par exemple,
Yakutumba et les autres.
Il n'est pas normal que Yakutumba, qui occupe quelques villages du côté de Baraka en Fizi, qu'il commence à dire, bon voilà, ils brandissent l'ensemble de ces revendications pour pouvoir opérer l'intégration. On lui a dit d'intégrer l'armée rapidement, de laisser ce processus d'intégration se faire. Et puis, bon, les revendications seront gérées à l'intérieur de l'armée nationale. Donc, je pense qu'il faut qu'ils montrent la bonne volonté pour pacifier réellement le pays. Pareco, ça ne sert plus à rien. Ce n'est pas nécessaire que Pareco et son groupe, etc. Il faut absolument que Pareco puisse prendre langue avec l'autorité militaire de la 8e région militaire et de manière à ce que les éléments de Pareco puissent réintégrer dans le commandement unique de la région militaire. Donc je crois qu'ils ont la possibilité de dialoguer avec l'autorité militaire dans les provinces et il faut qu'ils saisissent cette opportunité parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec un pays avec des groupes armés à gauche, à droite, etc. On a besoin de la compétition économique. Le Nord qui bouge, le Sud qui bouge, l'Ituri, on sont en train de voir comment les pays où se développe. Il faut donner la chance à ces coins-là de se développer, d'avancer, de progresser. Et ces coins ont des ressources. Et malheureusement, si ce progrès ne se fait pas, malheureusement, d'autres régions aussi risquent d'en pâtir.
Félicien, vous êtes ici à Kinshasa, docteur Richard Kinshasa et Joseph Zeta Lubumbashi. On va vous donner la parole pour commenter et surtout proposer ce qui doit être fait pour accompagner les décisions prises par le chef de l'État. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel. Mais n'oubliez pas aussi de le faire par la page Facebook de Parole aux auditeurs. Nous pouvons récupérer votre commentaire pour l'exploiter dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Félicien, vous êtes en ligne, bonjour. Félicien, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Beaucoup de gens ont proposé des solutions, en fait, de ce qui peut être fait pour accompagner les mesures du chef de l'État et lutter contre l'insécurité dans ces provinces. Au-delà de ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que vous proposez?
Moi, je pense que ces problèmes de l'insécurité à l'est est trop ambigu et trop complexe. Et pour moi, je pense que tout ce qu'on est en train de proposer, c'est juste pour endormir un peu l'opinion. Parce que cette guerre-là va faire maintenant, cette insécurité-là va faire maintenant plus de 14 ans. Et tout ce qu'on a proposé n'a jamais été né. Et je me pose la question si ce n'est pas la balkanisation qui se fait en douceur sans attirer l'attention du grand public. Parce que je n'ai jamais compris qu'on puisse rester 14 ans dans cette situation. Et ici, à Kinshasa, toutes les autorités sont à l'aise. qui sont en train de manger des pois, des enrichis, etc. Alors que la priorité devait être donnée à l'armée. La réforme de l'armée devait être une priorité, l'équipement de l'armée devait être une priorité, la motivation de l'armée devait être une priorité pour que le pays soit en paix et que nous puissions penser au développement. Mais c'est le contraire qui s'est fait. Mais tout ce qu'on a déjà fait, ça va faire 14 ans, ça n'a pas donné de résultats. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit que ça va donner des résultats.
Oui,
ça peut passer la réforme de l'armée, la motivation de l'armée et l'équipement de l'armée. Sinon, toutes les autorités qui sont ici à Kinshasa sont complices de cette situation et tout ce qu'on fait, c'est pour
Félicien, si vous dites que toutes les autorités qui sont à Kinshasa sont complices, quand même c'est trop fort de dire ça. Mais dis-moi, vous dites qu'il y a la priorité pour vous, c'est au niveau de la réforme de l'armée, au niveau de l'équipement, de la motivation. Vous pensez que c'est ce qui doit être fait pour lutter contre cette situation qui dure depuis bientôt 14 ans, sur votre point de vue. Merci Félicien. Docteur Richard, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi les uns les autres. Qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner les mesures prises pour la lutte contre l'insécurité en Nord et Sud Kivu?
Merci. Mais je suis très ému de beaucoup de propos de vérité. C'est pourquoi j'ai même manqué de citer votre nom. Bonjour aussi à votre invité.
Merci.
Et à tout le monde.
Mm-hmm.
Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on a posé le diagnostic réel de ce qui se passe à l'Est? Moi, je dis ceci, voici le diagnostic. La guerre nourrit son peuple local, son voisin et, pourquoi pas, son homme. J'avais aimé que notre invité, quand il a parlé, continue à dire, voici comment les pays voisins se développent avec les richesses du Congo. Parce que personne n'oublie qu'il y a une cité qu'on appelle Merci Congo au Rwanda. Et puis, pourquoi la guerre nourrit son peuple? Mutebuzi a fui en allant où? Au Rwanda. Où est-ce que Laurent Kunda a fui? Au Rwanda. Donc, les pays qui nous limitent, les pays limitrophes qui se développent derrière notre guerre qu'on nous a imposée. La guerre nourrit son peuple, ça signifie quoi? Je m'excuse, je ne suis pas très balisé. Je parle toutes les langues, les quatre langues du pays, y compris beaucoup de dialectes. Beaucoup de gens qui construisent des grandes maisons aujourd'hui, quand on regarde bien, ce sont nos frères de l'Est, je me demande si la guerre peut rendre quelqu'un riche. Donc, la guerre rend beaucoup riche à l'Est. Ça a rendu riche nos voisins. Ça a rendu riche ceux qui ferment les yeux. Je me souviens qu'un jour, monsieur Touré, que je salue, qui est en Côte d'Ivoire, disait « Votre guerre, c'est la nature de votre pays et aussi la complicité de certaines autorités. C'est pourquoi vous souffrez. Votre pays est riche. Mon portable que vous voyez contient les minéraux de votre pays. Mais le portable coûte trop cher ici dans votre pays, comme si les minéraux ne venaient pas de chez vous. La Tabena qui avait transporté les minéraux de guerre, y a-t-il eu un procès contre elle? Non. Alors, conclusion ou proposition? Que le chef suprême de l'armée fasse comme son prédécesseur, le feu maréchal Mobutu. Il avait toujours un état-major de campagne pour diriger les opérations. Sauf quand il était malade et il est devenu ce que nous savons. Mais il était à Kolwezi, on s'attirait même de partout. Il était à Shaba 1, Shaba 2, à Moba 1, Moba 2, etc. Donc, décentraliser la guerre en la mettant au niveau de région militaire, c'est un aveu de faiblesse et d'échec. Je ne vois pas comment un commandant de région, avec peu de ressources, peut diriger une guerre. Que le chef d'état-major général s'installe dans les régions de guerre, et non dans les bureaux climatisés pour diriger les opérations et aller en simple visite d'information. La guerre ici est très complexe. Il y a des gens qui ont même des cartes géographique, modifiant la géographie de l'Est. La géographie de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi. Tous ces pays ont été cités par notre invité pour dire la guerre est influencée par les envahisseurs armés venant de nos pays voisins. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici?
qui viennent prendre pour développer leur pays. C'est en complicité avec leurs chefs. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont ici et dans leur pays, ça pose problème pour qu'ils puissent aller détruire là-bas, mais ils sont ici masqués pour piller encore nos ressources.
Voilà,
nous sommes victimes de ce que nous sommes
voilà.
Et de notre naïveté.
Docteur Charles, on vous suit.
On ne peut pas complicité.
Voilà, vous avez dit pour vous que la situation est complexe. Vous pensez que la guerre, il y a des gens qui souhaitent qu'il y ait la guerre parce que la guerre permet l'exploitation illicite des ressources naturelles de la RDC. Il y a des gens qui s'enrichissent derrière la guerre. D'ailleurs, plusieurs rapports des Nations Unies ont évoqué d'ailleurs ce problème des ressources naturelles de la RDC, la guerre, les compagnies, les multinationales, les sociétés étrangères qui exploitent illégalement. C'est d'ailleurs la question qu'on devait poser à notre invité par rapport à ce problème de l'exploitation des ressources qui permet à ce que les gens puissent se retrouver et aussi ces minéraux qui sont exploités dans les zones où il y a la guerre, comment sortent-ils pour permettre à ce que ces groupes armés soient ravitaillés, qu'ils puissent continuer à vivre ainsi. C'est votre proposition. Hein, vous avez pensé qu'il faut d'abord que les opérations puissent se faire sur le terrain, les commandements puissent être sur le terrain au fond, plutôt que commander au loin. Joseph, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour.
Bonjour, merci Radio Kapi de m'avoir accordé la parole.
On vous écoute, Joseph, oui.
Oui, merci. Je disais que pour accompagner les décisions prises par le chef de l'État, il faut non seulement le déploiement des militaires, c'est une chose. Donc, je soutiens l'idée de mon frère Serafé de Villa, ma convaincue de Sikibou, mais aussi, il fallait équiper nos militaires. C'est-à-dire, les payer bien et leur donner à manger. Parce que quand vous regardez bien, nos militaires dans la province de Kiev souffrent sur le moment, et vous ne pouvez pas comprendre si ce sont vraiment les militaires de la République démocratique du Congo.
Mmh.
Quand vous voyagez, vous partez par exemple à Minembwe, vous partez à Fizi, vous verrez que nos militaires ne sont pas bien équipés, nos militaires ne mangent pas, nos militaires sont vraiment dépourvus de leurs moyens. Toutefois, il serait mieux de renforcer la capacité de nos régiments. Quand je suis dans la province du Nord-Kivu, il y a eu des régiments, c'est-à-dire, il y a eu des régiments que le chef de l'État lui-même aurait dû former. Le chef des militaires. Alors, ce régiment-là, établi, presque dans toute la province, c'est-à-dire sur le dinar et du Kiki. S'ils sont renforcés, ils feront face.
Mm-hmm.
Une autre chose, les militaires seront mieux si dans certains villages, on est toujours des conflits, en l'occurrence, Minembwe, Routou et Matisse, trouvent leur compte de leurs revendications, assurer à la conférence sur la paix, qu'on avait fait la conférence sur la paix et le développement du Nord et du Kivu, à l'île que j'aime à Goma. Alors, si vraiment on tient compte de nos revendications, je suis sûr et certain que nos militaires seraient bien.
Dans les deux provinces,
la province du Kivu, la province du Kivu, un bon nombre de militaires sont seuls qui ont été formés, qui ont été mélangés. C'est que les militaires venus de certains groupes armés, notamment.
Oui, je veux dire, parce qu'on a deux auditeurs en ligne, il ne reste que 8 minutes pour terminer l'émission, mais dis-moi, en bref, on vous a suivi, vous avez dit qu'il faut, au-delà du redéploiement des militaires, donc j'ai beaucoup insisté sur équiper les militaires et améliorer leurs conditions de travail, mais aussi attaquer le problème des conflits dans des villages, hein, parce que les gens en profitent de ces conflits-là, et là vous avez pensé à la conférence sur la paix dans le Grand Lac, ce qu'il faut faire sur le plan social par rapport aux conflits dans le village. Merci beaucoup. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et que nous avons les deux derniers auditeurs sur les antennes, Kitenge qui est ici à Kinshasa et Moïse qui est à Béni. Ils auront chacun une minute pour permettre à notre invité de commenter son point de vue et aussi conclure. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas pu être posées, mais malheureusement pour nous. Mais du moins, l'essentiel a été abordé. Kitenge, vous êtes en ligne, bonjour. Mais vous êtes ici à Kinshasa, vous avez suivi là qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Oui, il y a tout ce que les autres ont déjà dit. En une minute et demie, qu'est-ce que vous pouvez agiter pour renforcer, bien sûr, hein, les mesures prises par le chef de l'État et lutter contre l'insécurité dans, dans ces provinces?
Bon, ça va. Le problème, c'est quoi? C'est comme bien que ce qui a dit d'abord de poser le diagnostic de ce qui se passe à l'Est. Et puis, voir s'il faut chercher les mesures qui doivent accompagner la décision du chef de l'État. Il faut d'abord vérifier quel est l'impact de cette décision sur le terrain. Parce qu'on a eu une conférence de Goma, l'entrée des troupes rwandaises, tout ce qu'il y a eu là, les autres toutes ces opérations-là. En voyant bien le bilan, c'est le bilan. Pour quel est l'intérêt de cette décision? Je passe en une minute, je peux demander.
Il faut d'abord faire un diagnostic de ce qui se passe sur le terrain. Comme ça, on pourra dégager les mesures qui peuvent permettre d'accompagner ce qui a été décidé. Nous terminons avec vous, Moïse. Vous êtes à Béni, au nord qui vous. Bonjour, Moïse.
Oui, bonjour.
On vous écoute en bref aussi, en une minute et demie, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et qu'il y a encore des questions à traiter avec l'invité. On vous écoute, Moïse.
Ok, merci. Mais sinon, je vais commencer par une déclaration. C'est de constater que l'autorité congolaise a développé une carapace selon laquelle elle écoute, mais elle ne réagit pas. Sinon, alors, j'ai une petite observation. Est-ce que le chef de l'État Kabila a d'abord dit que ceux qui sont à Brousse ont pris une meilleure vie que les FRDC, des avenues ici, commerçants du Chavre, commerçants du poisson fruité? Et alors, ce que j'ai aimé dans les propos du chef de l'État, c'est d'avoir reconnu que dans l'armée, qu'on soit général, qu'on soit caporal, sont devenus tous des commerçants, des hommes d'affaires. Et bon, partout dans le domaine qui serait parallèle, opposé aux activités militaires, parce que ce sont des activités secrètes pour une nation. Ou bien alors, est-ce que le chef de l'État, avant de prendre cette mesure, il a d'abord expliqué à sa population qu'il y a certains qui doivent lui avoir induit en erreur d'avoir pris la précédente décision parce qu'elle n'a pas abouti? Il doit maintenant expliquer pourquoi ça n'a pas abouti. Quels sont les moyens qu'il avait mis à...
Moïse, si on doit revenir dans l'émission pour faire les analyses sur les premières mesures, c'est ce qui n'a pas abouti, vous allez vous rendre compte qu'on n'aura pas vraiment assez de temps. Mais du moins, vous avez évoqué le fait que beaucoup de militaires se sont détournés de leur mission, ils font le commerce de substances prohibées illicites, hein, qu'ils sont mieux comme ça. Alors, vous l'avez dit, ça a été évoqué dans le propos du chef de l'État. Mais le souci ici, parce qu'on doit conclure vraiment cette mission, c'est de voir ces mesures produire les résultats sur le terrain. Nous avons quelques messages comme Arsène Moulindo qui est à Lubumbashi. Dans notre pays, il y a une maladie sérieuse, celle de la non-réalisation des promesses. Qu'on ne prenne pas la chose à la légère, ce sont des vies qui sont en danger. La Constitution ne dit-elle pas que la vie humaine est sacrée? Notre gouvernement doit promettre, mais doit aussi réaliser. Les militaires qu'on doit envoyer sur le terrain sont plus motivés, il faut les motiver. Franck Bissikia, qui est à Kiwanda, dit ceci, de qui vous demande la volonté politique de nos autorités face à l'insécurité dans la région. Greg Camp de Boutembo, le chef de l'État, a pris la décision, mais je pense que c'est une décision active hein, qui risque d'augmenter la température de l'insécurité dans le de qui vous. Pourquoi on a attendu seulement qu'il y ait beaucoup de bruit autour du mandat de la CPI contre le général Bosco Ntaganda pour qu'on puisse résoudre à prendre les décisions sur les régions militaires qui doivent continuer avec les opérations. Karim, capitaine, dit ceci, nombre de gens pensent que cette mesure serait parfaite en soi pour mettre fin à la sécurité dans les Kivu. Mais non, il faut proposer, mais suivre aussi, bien sûr, d'application dans un court délai et passer aussi à l'évaluation. Il faut avoir pitié de peuple congolais qui sont en train de souffrir, mais il faut aussi renforcer la justice. L'Osimbo dit ceci, c'est une bonne idée, mais il faudrait que ces deux régions militaires puissent insister beaucoup plus sur la sécurité dans les frontières nord et sud, car l'insécurité est souvent causée par les gens qui proviennent de ces de l'extérieur. Merci beaucoup, on n'a pas pu avoir le moyen d'exploiter tout le message. Monsieur Baudouin Mouli, on a beaucoup de préoccupations, mais malheureusement aujourd'hui, les temps nous coincent en nous laissant juste, je crois, bien deux minutes, plusieurs préoccupations. Les uns sont revenus, ce qui a été déjà dit. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir à partir de ces moments, dans ces sujets que nous n'avons pas abordés pour la première fois, plusieurs fois on en a abordé, sur la lutte contre l'insécurité dans ces provinces, eu égard à tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on peut retenir une fois pour toutes?
Bon, primaire, d'abord, je retiens que effectivement la situation à l'Est a toujours été complexe, mais il faut dire qu'elle est moins complexe aujourd'hui qu'elle l'était. Mm-hmm. Il y a une 5-6 ans, la situation est plus claire et plus maîtrisable aujourd'hui. Donc, et c'est là grâce aux efforts qui ont été menés. Donc, je ne partage pas le pessimisme exprimé par Félicien. Je crois que Félicien devrait vraiment faire un peu confiance aux efforts qui sont actuellement menés. Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec lui qu'il faut prioritairement équiper l'armée, l'organiser, la structurer. Je crois qu'il faut concentrer les efforts là-dessus. Le même point de vue a été exprimé par Dr Richard, et je suis très content de ce point de vue d'ailleurs. Je crois qu'il connaît bien la situation.
Voilà.
Dr Richard a quand même insisté sur la relation entre la guerre et
les minerais,
l'enrichissement illicite. Je crois que cela a été dénoncé. Je crois qu'il est tout à fait,
on
est tout à fait d'accord.
En 10 secondes.
Et bon, s'agissant de Joseph et Kitenge, de l'autre, ils insistent sur l'efficacité, la nécessité de soutenir prioritairement l'armée. Je crois que tous nous partageons leur point de vue. Il faut absolument que le gouvernement qui va être installé d'ici peu puisse mettre la priorité sur l'armée.
Merci beaucoup, Baudouin Mouli, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les coordinateurs de la conférence internationale sur la sécurité dans le Grand Lac. On se retrouve demain, mardi. Nous allons parler politique. Depuis le vendredi, nous connaissons déjà le bureau définitif de l'Assemblée nationale, avec un bureau composé de 7 membres, en raison de 2 issus de l'opposition, 5 de la majorité. Pour vous, auditeurs des Radio Capi, qu'attendez-vous de ces bureaux de l'Assemblée nationale? Voilà le sujet qui va faire l'objet de notre émission demain. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à produire cette émission. Au revoir.